Quand on m'a proposé comme thème Joseph, comme bibliste, je me suis dit, mais les évangiles ne disent pas grand-chose à propos de Joseph. Alors qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire? Et pourtant, alors, en travaillant notamment un texte, c'est-à-dire l'évangile de Matthieu, j'ai découvert la richesse de la figure de Joseph. Et c'est ce que je vais essayer de vous présenter à travers quatre points. Mais je commencerai quand même par rappeler tout simplement que les évangiles sont extrêmement discrets sur lui. Dans l'évangile de Jean, seul Philippe l'évoque lorsqu'il s'adresse à Nathanaël pour lui dire: Celui dont Moïse a écrit dans la loi ainsi que les prophètes, nous l'avons trouvé, c'est Jésus. Le fils de Joseph de Nazareth, seule mention dans l'évangile de Jean. L'évangéliste Marc, lui, ne l'évoque pas. Il rappelle simplement les réflexions des gens de Nazareth à propos de Jésus. N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie? Mais Joseph, lui, n'apparaît pas. Tandis que dans l'évangile de Luc, on apprend que, je cite Luc, quand il commença, Jésus avait environ 30 ans. Il était à ce que l'on pensait fils de Joseph, fils d'Élie. Finalement, l'évangéliste qui le mentionne le plus, c'est Matthieu. Notamment dans les récits de l'enfance. Mais après, il va disparaître totalement et on n'en parlera plus. Alors tout cela explique sans doute que eh bien, c'est les évangiles apocryphes, voilà ces écrits du 3e, 4e siècle qui vont s'emparer de la figure de Joseph, parce que évidemment il y a la curiosité de tous les chrétiens qui disent mais qu'est-ce qu'on sait de lui? Alors par exemple, vous avez le protévangile de Jacques, 4e siècle, ainsi appelé parce qu'il s'intéresse au début, donc à ce qui précède la naissance de Jésus. Est un des premiers. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on découvre? Vous connaissez tout cela. D'ailleurs, assez souvent, les évangiles apocryphes répondent à des questions. Et là, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que Joseph, c'est le fameux récit, Joseph était veuf. Et lorsqu'il fut désigné pour prendre Marie chez lui, il avait déjà des enfants. Voilà. Et comme ça, on résout le problème des frères et sœurs, en disant, mais oui, c'est Joseph qui était. Le récit de l'enfance par Thomas, lui, raconte, alors c'est magnifique, parce que là, on a un certain nombre de récits qui évoquent Joseph et Jésus. Et notamment, on y évoque Jésus en train d'apprendre le métier de charpentier, mais il se trouve que dans ce récit, on se rend bien compte que Jésus a des capacités que Joseph n'a pas. Par exemple, il y a un dignitaire qui demande à Joseph de lui faire un trône. Et puis quand le fameux dignitaire arrive, il veut s'asseoir. Malheureusement, le trône est trop petit. Alors que fait Jésus? C'est très simple, hein? Il prend chacun des deux côtés du trône et il tire. Et le trône devient exactement, voilà. Voilà, vous avez là un certain nombre de récits. Peut-être plus important, si je puis dire, vous allez comprendre pourquoi. Un autre évangile apocryphe, l'histoire de Joseph le charpentier, nous raconte que Joseph est mort à l'âge de 111 ans. Voilà. Il meurt entre Jésus et Marie. Son âme déposée dans un voile lumineux est emporté par Michel et Gabriel. Mais son corps, lit-on, a été enseveli et il restera intact jusqu'au retour glorieux du Christ sur terre. Évidemment, à la fin du récit, qu'est-ce qu'on voit? On voit Jésus qui recommande de prier Joseph et qui recommande de le fêter tous les ans. C'est le premier document qui témoigne d'un culte rendu à Joseph. Et on voit bien que pour alimenter un peu ce culte, on écrit un récit dans lequel on voit Jésus lui-même dire, il faut prier. Ces récits, évidemment, n'ont pas de fondement historique. Mais chacun à leur manière, et c'est en cela qu'ils sont intéressants, ils reflètent la curiosité des chrétiens. Toujours pareil, qui ne se satisfont pas de ce que les évangiles soient aussi silencieux sur la figure de Jésus. À la lumière de ce que l'on sait du judaïsme à cette époque, on peut penser cependant, et j'essaierai de l'évoquer, que Joseph a joué un rôle important dans l'éducation de Jésus. Je vous citerai un passage de Saint Jean-Paul II, qui à ce niveau-là est très très beau. Sans doute qu'il a joué un rôle important. On peut penser que c'est de Joseph que Jésus a pris les premiers mots de sa prière, puisque c'était le rôle du Père que d'enseigner la loi, que d'enseigner la prière, que de conduire à la synagogue, outre le fait qu'on peut penser que c'est aussi de lui, bien sûr, qu'il a appris un métier. Mais ce n'est pas sur cela que je voudrais m'attarder ce matin, je voudrais juste évoquer quatre aspects qui me font dire qu'il est un modèle pour nous aujourd'hui. Et pour cela, je me baserai évidemment sur l'unique récit que nous avons, c'est-à-dire le récit de Matthieu, et je me baserai à la fois sur ce récit et à la fois, vous le verrez, sur certaines exhortations ou lettres apostoliques des papes, notamment Paul VI, Jean-Paul II et François. Le premier point, j'ai mis « Joseph est un modèle d'effacement ». On pourrait dire « serviteur », mais c'est cette dimension d'effacement qui, je crois, interpelle un peu le lecteur des évangiles. Dès le début, il est question de l'évangile de Matthieu, il est question d'une longue généalogie, vous connaissez le récit, soigneusement articulée autour de la figure de Marie, et puis Joseph est évoqué juste à la fin, mais il est évoqué comme l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, que l'on appelle Christ. L'époux de Marie, de laquelle est né Jésus. Et là, on comprend que si Jésus est né de Marie, et en grec c'est un passif divin, il n'est pas né de Joseph. Et pourtant, c'est bien parce que Joseph va l'accueillir dans sa lignée, la lignée davidique, que Joseph va permettre au dessein salvifique de se réaliser. Alors c'est une question un peu idiote, mais on dit toujours Marie, mais si Joseph avait dit non, si Joseph n'avait pas accueilli Marie chez lui, si Joseph n'avait pas permis justement à Jésus d'entrer dans la lignée davidique, ben les promesses vétérotestamentaires, les prophéties vétérotestamentaires ne se serait pas accompli. Donc on voit bien que Joseph va rendre un service essentiel au dessein salvifique. Mais il le fait dans un effacement total. Lui dont on ne sait rien, lui dont on ne saura rien de plus, qu'il était l'époux de Marie. Lorsqu'une intervention divine a bouleversé tous ses projets, a fait de lui le dépositaire du mystère indissociable de l'incarnation et de la rédemption tel qu'il apparaît, on le verra, dans le nom de Jésus, c'est-à-dire Sauveur. Donc on voit bien qu'il est le modèle pour moi de l'effacement, du serviteur, qui va accomplir une mission essentielle, pas secondaire, essentielle, puisqu'il va accueillir Jésus dans sa lignée, il assumera ensuite sa responsabilité d'époux et de père, on verra cela notamment lors de la fuite à l'Égypte, ou lors du retour de la Sainte Famille en Judée, mais il disparaîtra comme il est apparu. Il disparaîtra comme il est apparu, sans laisser de traces. Ce qui alimentera, on vient de le voir, toutes les rumeurs, un peu des évangiles apocryphes. Donc, je dirais que Joseph, tel qu'il nous est présenté dans l'évangile de Matthieu, est le modèle du serviteur qui accomplit humblement, fidèlement, la mission qui lui est confiée et qui, une fois cette mission accomplie, et on peut penser aussi heureux de l'avoir accomplie, reprend l'occupation qui était la sienne, sans attendre rien en retour. Jésus parlera des serviteurs. Moi, j'aime pas trop l'expression serviteur inutile, mais c'est un serviteur quelconque. Voilà. Et qui, une fois qu'il a rendu son service, disparaît. Il n'est en rien propriétaire de la mission qui lui a été confiée. Il l'accomplit lorsqu'il faut l'accomplir, avec tous les déplacements que cela va occasionner, tous les risques par certains côtés. En même temps, on voit bien comment Joseph, de fait, est une illustration de la manière dont Dieu, tout au long de la Bible, et aujourd'hui encore, appelle des petits, des persos, des gens humbles, des pauvres, à le servir. Mais à le servir en leur révélant les mystères du salut. Parce que ce qui est très étonnant, on va le voir après, c'est que Joseph, finalement, est presque le premier à être le dépositaire du mystère du salut. Ce mystère du salut dont Jésus, dans l'Évangile, nous dit qu'il est souvent caché aux sages et aux savants, mais qu'il est révélé aux petits et aux pauvres. Dans sa lettre apostolique, Patrice Cordet, après avoir évoqué, je le cite, le fait que nos vies sont tissées, soutenues par des personnes ordinaires, souvent oubliées, qui ne font pas la une des journaux et des revues, ni n'apparaissent dans les grands défilés du dernier show, mais qui sans doute sont en train d'écrire aujourd'hui les événements décisifs de notre histoire. Bien, le pape François, je l'ai cité, fait remarquer, voilà, je cite, que Saint Joseph nous rappelle que tous ceux qui apparemment sont cachés ou en deuxième ligne jouent un rôle inégalé dans l'histoire du salut. Joseph est le modèle de cela. Il va jouer un rôle essentiel. Mais on ne sait pas qui il était, on ne saura rien de ce qu'il est devenu. Et une fois son service accompli, il disparaîtra. Alors il me semble qu'il pourrait y avoir là pour nous comme une invitation à la suite de Jésus, de Joseph, pardon, à cultiver un certain effacement. Parfois, on se comporte un peu comme des propriétaires des missions qui nous sont confiées. Et on a du mal à les laisser parce qu'elles nous ont été confiées. Parce qu'on s'est aussi identifié à ces missions-là. Et par le fait même, on n'est plus tellement des serviteurs. Le serviteur accomplit la mission du mieux possible. Il s'y donne totalement, sans pour autant s'y identifier, parce qu'il sait que le maître de la mission, ce n'est pas lui. Il sait que le maître de la mission, c'est le Seigneur. Et il sait que c'est au Seigneur qu'il doit laisser la première place. Il me semble que cet effacement, voilà, qui est celui de Joseph, qui ne va pas l'empêcher d'accomplir la mission qui est la sienne, qui va au contraire même faire de lui le dépositaire du mystère du salut, peut-être pour nous un exemple d'une attitude, voilà, qu'il nous faudrait cultiver. Voilà. Je dis souvent, mais je pense que vous l'avez vous-même vécu aussi, expérimenté, le serviteur ne choisit pas le service qu'il a à rendre. On ne choisit pas le service. Si on est serviteur, voilà. Sinon on n'est pas serviteur. Et Joseph est serviteur. Il est appelé à un moment donné, hein, voilà. Et il va donc peut-être aussi derrière cet effacement, des interrogations sur nos besoins de reconnaissance, voilà. Sur les réactions qui pourraient être les nôtres parfois, sur voilà, nos projets, voilà, quand nos projets sont contrariés, avec l'amertume que cela peut entraîner, la rancœur qui infecte de toute façon les relations avec les autres, ils font qu'on n'est pas bien, Mais on est tellement mieux, me semble-t-il, quand on accepte d'être serviteur. Je ne vous cache pas, quand on m'a demandé d'être économe du séminaire français de Rome, bon, vous savez, c'est bien la dernière des choses que j'aurais voulu faire. J'ai vécu, je l'ai dit à l'un d'entre vous ce matin, pendant quelques mois, la tentation de dire non, je m'en vais, c'est pas fait pour moi, je m'en vais. Et puis non, voilà. Il faut accepter, on accepte, on essaye de rendre du mieux possible le service qui est le nôtre. Voilà, c'est, Joseph est un modèle à ce niveau-là, un modèle, modèle d'effacement, modèle du serviteur qui... on le verra après, dans la foi et la vie donnée accomplit le service qui est le sien et disparaît. Moi, c'est cette notion un peu de, on ne parlera plus de lui, alors on va inventer beaucoup de choses. On aurait pu imaginer que Joseph ait pu suivre Marie et que voilà, qu'il ait pu aussi voir Jésus accomplir ses premiers miracles. On ne sait rien, peut-être, on ne sait rien. Le texte, lui, voilà, nous, c'est ce côté énigmatique, voilà, de celui qui, une fois qu'il a accompli la mission, disparaît. Il disparaît. Le deuxième point, un modèle de justice. Alors, quand je dis un modèle de justice, c'est dans le sens que c'est un homme juste. Juste. Et là, vous savez que c'est précisément le titre que lui donne... Matthieu, je lis, Marie, sa mère, c'est au tout début, chapitre 1, versets 18 à 19, Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit-Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret, un homme juste. Alors, ce terme, vous le savez, il est profondément enraciné dans la spiritualité juive. Quand on dit d'un homme juste dans la Bible, on va évoquer une droiture morale, c'est évident. On va évoquer l'attachement sincère à la pratique de la loi de Moïse. Et on va évoquer une vie totalement tournée vers Dieu, ajustée. Voilà. Le juste, c'est celui qui est ajusté au dessein de Dieu. Et Joseph est qualifié par Matthieu. Vous savez que dans l'évangile de Matthieu, ce terme de justice, la justice reviendra régulièrement. Ne serait-ce que dans les béatitudes, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Dans ce sens de justice, c'est bien ceux qui aspirent à être ajustés au dessein de Dieu, à correspondre au dessein de Dieu. Donc heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Et puis vous savez aussi comment, toujours dans l'évangile de Matthieu, Jésus demande à ses disciples de tout faire pour que leur justice surpasse celle des scribes et des pharisiens. Voilà, les scribes et des pharisiens dont la justice est peut-être un peu de l'ordre quantitatif. Il y a des lois que l'on doit observer scrupuleusement. Et Jésus va rappeler, non, que la justice va au-delà de cela. Mais que ce qui importe, c'est d'accomplir les exigences de l'amour. Voilà la justice fondamentale. En se conformant un acte, en se conformant un esprit à son dessein. Donc Joseph est juste. Il est juste. Il est juste peut-être à un point, en un sens que parfois nous... On pourrait peut-être parfois ne pas voir. C'est-à-dire que... Bon, vous savez, vous connaissez, je ne vais pas vous rappeler. Hein, il est... Voilà, le mariage, à cette époque-là, se faisait en deux temps. Il y avait d'abord le premier temps, c'est-à-dire lorsqu'on était promis en mariage. On était promis en mariage, mais lorsqu'on était promis en mariage, on était marié légalement. Et puis c'est quelques temps après que, notamment, l'épouse allait chez son époux. Et ça veut dire que quand on dit promis un mariage, il faut entendre dans le sens de « ils sont mariés ». légalement. Et évidemment, lorsqu'il apprend que Marie est enceinte, et qu'il apprend que c'est de par l'œuvre de l'Esprit-Saint, je pense que Joseph est juste parce qu'il refuse d'appliquer la loi de manière aveugle. La loi aurait voulu qu'il la répudie publiquement. Il ne le veut pas. Il ne le veut pas. Et en même temps, il refuse, on le voit bien, d'exposer publiquement Marie à l'ignominie. Cette qualité de relation, cette qualité de la relation qui fait que, bien sûr, cette affaire ne pourra pas rester secrète. Bien sûr, elle deviendra nécessairement publique. Mais la justice de Joseph va être, parce qu'il est ajusté au dessein de Dieu, eh bien, de faire preuve aussi d'attention vis-à-vis de Marie. Il refuse d'appliquer la loi. Il me semble qu'il va surmonter, peut-être la déception, plus que la déception. Il accueille le dessein de Dieu avec ce que ce dessein de Dieu signifie comme bouleversement par rapport à tous les projets qui étaient les siens. Projet dont on peut penser qu'il les avait amoureusement échafaudés. Il accepte de renoncer à cela. Il accueille l'invitation de l'ange à prendre Marie chez lui. Alors, on est dans un petit bourg, si on en reste au récit. Alors, est-ce que c'est Bethléem, est-ce que c'est Nazareth? Chez Matthieu, on a plutôt l'impression que c'est Bethléem, chez Luc, c'est plutôt Nazareth, mais peu importe. On peut imaginer que, en acceptant de prendre chez lui Marie, Joseph va accepter aussi peut-être les rumeurs, les moqueries, les colibés, tout ce qu'il peut y avoir. Il y a l'évangile où on dit « N'est-il pas le fils de Marie ?» Et là, certains auteurs disent « Mais si on dit « N'est-il pas le fils de Marie ?» c'est parce que finalement... je vais peut-être vous choquer, mais peut-être parce qu'il y avait cette idée que, de fait, Jésus n'étant pas véritablement le fils de Joseph, c'était un bâtard. Il faut accepter d'entendre aussi cela. Et pour nous, on lit spirituellement les choses, mais imaginons ce que, voilà, si je suis le texte de Matthieu, essayons d'imaginer ce bouleversement que représente pour Joseph, le fait d'accueillir la voix de l'ange. Voilà, ne crains pas. Mais ne crains pas, très bien. Mais avec aussi, après, il faut assumer. Il faut assumer que cet enfant, il n'est pas le sien. Cet enfant, c'est celui de Marie, les colibés, la rumeur, ainsi de suite. Donc, je crois que Joseph est juste, parce qu'il acceptera aussi tout cela comme la contrepartie nécessaire de l'accueil du dessein de Dieu. Et un accueil du dessein de Dieu qui l'invite à aimer davantage encore Marie. Et qui l'invite à chérir comme nul autre ce fils dont il sait bien qui n'est pas le sien. Parce que sa vie est totalement ajustée au dessein de Dieu. Joseph accueillera également les désinstallations successives. Il n'y a pas que celle-là, on va le voir, il y en aura d'autres. Il accueillera les désinstallations successives auxquelles il est appelé, et j'y reviendrai, en véritable époux, en véritable père, il veillera sur Marie et Jésus, qu'il protégera et gardera. Comme si le oui de la foi, je vais y revenir après, en réponse à ce Dieu qui lui demande de renoncer à ses projets, comme si ce oui lui avait permis d'accéder à un degré d'amour. Il est juste en ce sens-là. Mais il est juste aussi de ce que l'œuvre de Dieu va produire en lui. Voilà. Dès lors qu'il va accepter de faire confiance, dès lors qu'il va accepter de s'en remettre à cet ange qui lui dit « Ne crains pas de prendre chez toi Marie ». Il y a tout ce qu'est Joseph, mais il y a aussi tout ce qu'est l'œuvre de Dieu en lui. Et pour cela, il me semble qu'il peut être un modèle pour nous. Un modèle dans le sens où, en accueillant l'inattendu de Dieu, en accueillant peut-être parfois des dominations, des changements, des bouleversements, avec tout ce que cela veut dire, il peut nous être donné, je crois qu'on en a fait toute l'expérience, il nous est donné de grandir dans notre configuration au Christ. Il nous est donné de grandir dans notre ajustement au dessein de Dieu. Et on devient juste. Bon, Matthieu dit de Joseph qu'il était juste. On peut penser qu'il le deviendra sans cesse, de plus en plus. Parce qu'il a accepté dans sa vie de faire confiance. Parce qu'il a accepté l'inattendu de Dieu. Parce qu'il a accepté de voir ses projets humains bouleversés. Et il va grandir. Le pape Jean-Paul II reviendra beaucoup sur cela, et il va devenir réellement père, et il va redevenir réellement époux, parce qu'il accepte de faire confiance, parce qu'il accepte de renoncer à ses projets humains de paternité charnelle, ou parce qu'il accepte de renoncer à l'amour peut-être exclusif qui était le sien pour Marie. Et qu'il accepte que Marie soit la servante du Seigneur. Donc il va grandir dans cet ajustement au dessein de Dieu qu'il fera, qu'il verra sa vocation d'époux et sa vocation de père se réaliser pleinement. Je pense que cela peut nous parler aussi à nous, qui sommes prêtres, consacrés, religieux. Voilà, il y a une forme de paternité. Il y a une dimension de sponsalité à laquelle on peut accéder, aussi en renonçant. Mais en renonçant, le renoncement est la dimension négative. La dimension positive, c'est l'acceptation, l'adhésion au dessein de Dieu et le souci dans l'accueil de sa grâce de se laisser toujours plus ajuster à ce qu'il attend de nous, à ce qu'il veut de nous. Et on voit bien comment souvent, lorsque nous n'acceptons pas cela, il y a une part de nous qui ne se réalise pas. On le voit bien. Le troisième point, évidemment, c'est le plus évident. C'est un modèle d'obéissance et de foi. Alors, à ce niveau-là, je dirais peut-être même un modèle d'obéissance de la foi. D'obéissance de la foi. Et c'est vrai que quand on lit le récit de Matthieu, on voit que dans ce récit, où Marie n'apparaît pas, c'est Joseph qui a le premier rôle, mais on se dit que quand on compare le récit de Luc et de Matthieu, on voit bien que d'une certaine manière, la foi de Marie rencontre la foi de Joseph. La foi de Marie rencontre la foi de Joseph. Pourrait dire à la foi de Joseph rencontre la foi de Marie. Voilà. L'un dans chacun des deux récits. On voit bien qu'il y a une rencontre. À cette différence près que si Marie répond par une parole, Marie répond par une parole. Voilà. Je suis la servante du Seigneur, que ta volonté soit faite. Et elle répond donc par une parole affirmative, en réponse à la parole de Dieu qui lui a été transmise par l'ange. Joseph, regardez le récit de Joseph, vous verrez que chez Joseph, il n'y a aucune parole. Aucune parole. Marie répond par une parole. Joseph, est-ce masculin, je ne le sais pas, mais Joseph, lui, répond par un faire. Il fait. Il prie Marie chez lui. Il prie l'enfant et sa mère. C'est le refrain qui revient toujours. Par un faire. Et ce qu'il fait, là c'est un peu l'expression de Paul dans la lettre aux Romains, c'est une pure obéissance de la foi. Quand Joseph se réveilla, note l'évangéliste Matthieu, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse, mais il ne s'unit pas à elle jusqu'à ce qu'elle enfante un fils auquel il donna le nom de Jésus. Et par la suite, notamment à l'occasion de la fuite en Égypte ou du retour en terre d'Israël, on verra Joseph, chaque fois averti divinement en songe, accomplir ce qui lui a été demandé de faire. Je crois que c'est dans ce « il fit », j'insiste, c'est un « faire », c'est une action, c'est une action. C'est dans ce « il fit » que commence le chemin de foi de Joseph, au cours duquel, d'ailleurs, Matthieu ne mentionnera aucune parole, aucune parole. De ce point de vue, me semble pouvoir dire de Joseph, on pourrait dire de Joseph qu'il est l'homme du silence. Mais évidemment, d'un silence habité et actif, non pas résigné, non pas passif. D'un silence qui est fait de contemplation, d'écoute, qui est fait aussi d'accueil et d'action. Il prie, il fit. Voilà ce qu'écrit le pape François dans Patris Cordet. Bien des fois, des événements dont nous ne comprenons pas la signification surviennent dans notre vie. Notre première réaction est très souvent celle de la déception, de la révolte. Joseph laisse de côté ses raisonnements. Pour faire place à ce qui arrive, et aussi mystérieux que cela puisse paraître à ses yeux, il l'accueille. En assume la responsabilité et se réconcilie avec sa propre histoire. Il l'assume, aussi surprenant cela soit-il, aussi mystérieux. Et le pape François, cette phrase, il ajoute un peu plus loin, « La vie spirituelle que Joseph nous montre n'est pas un chemin qui explique, mais un chemin qui accueille. » Il laisse place au raisonnement, dit le pape François. Voilà. Ce n'est pas un chemin qui explique, mais un chemin qui accueille. Et cet accueil, il se concrétise dans des actions, dans des actes. Dans ce même passage, c'est le numéro 4 de Patris Cordet, le pape ajoute « Ce que Dieu a dit à notre saint, Joseph, fils de David, ne craint pas, il semble le répéter à nous aussi. N'ayez pas peur. Il faut laisser de côté la colère et la déception et faire place sans aucune résignation mondaine, mais avec une force pleine d'espérance à ce que nous n'avons pas choisi et qui pourtant existe. » Et là, il y a ce passage que je crois qu'on peut bien comprendre. « Accueillir ainsi la vie nous introduit à un sens caché. » Là, on revient un peu à la dimension du juste. Accueillir ainsi la vie. Ne pas l'accueillir à partir de nos raisonnements à nous, mais l'accueillir dans sa capacité à nous surprendre, dans sa capacité à nous dépasser, à nous déplacer. Nous introduit à un sens caché. Joseph ne sait pas ce à quoi il est appelé. Si, dans un premier temps, il est appelé à accueillir chez lui Marie. Mais la suite, il ne la connaît pas. La suite lui sera révélée progressivement et il comprendra progressivement. La vie de chacun peut repartir miraculeusement si nous trouvons le courage de la vivre selon ce que nous indique l'Évangile. Loin de nous alors de penser que croire, que signifie trouver des solutions consolatrices faciles. La foi que nous a enseigné le Christ est au contraire celle que nous voyons en Saint Joseph, qui ne cherche pas de raccourcis, mais qui affronte les yeux ouverts, ce qui lui arrive en assumant personnellement la responsabilité, qui affronte les yeux ouverts, ce qui lui arrive qui ne se perd pas en raisonnement, peut-être aussi en sentiment, mais qui affronte et qui assume la responsabilité. Et là, je voudrais juste vous citer plusieurs exemples de ce chemin de Joseph. Alors bien sûr, on pense toujours à Joseph qui apprend que Marie est enceinte et qui, de par l'œuvre de l'Esprit-Saint, qui est invité à l'accueillir. Et on passe assez rapidement sur la suite. Or, la suite, vous la connaissez, la suite, c'est qu'il reçoit la mission de donner donc à Jésus son nom. Voilà. Et là, Jésus qui veut dire sauveur, car il sauvera son peuple de ses péchés. Et nous ne percevons peut-être pas toujours dans cette révélation qui lui est faite le déplacement auquel Joseph va être invité. Je voudrais juste vous lire ici ce que dit le pape. Là, c'est Joseph Ratzinger. Enfin, Joseph Ratzinger, vous savez, c'est le livre sur l'enfance de Jésus écrit par Joseph Ratzinger, pape Benoît XVI. Il dit ceci: la promesse du pardon des péchés, celle que dont Joseph est le dépositaire, apparaît trop peu, et en même temps trop. Trop parce qu'elle touche à la sphère réservée à Dieu, trop peu parce qu'il semble que la souffrance concrète d'Israël et son réel besoin de salut ne soit pas pris en considération. Et il ajoute, dans le fond, toute la controverse sur la messianité de Jésus est déjà anticipée dans ses paroles. Joseph se trouve être le dépositaire d'un message qui pour nous sonne assez clair, mais qui au premier abord aurait pu le décevoir totalement. Et on va le voir tout au long de l'Évangile. Ce que les contemporains de Jésus attendent, ce n'est pas nécessairement quelqu'un qui va les sauver de leurs péchés. C'est un libérateur politique, c'est un sauveur, et on va bien voir que tout au long de l'Évangile, il y aura un malentendu. Et donc plusieurs auteurs disent, mais Joseph, dans cette révélation dont il est le dépositaire, se trouve aussi amené à poser un acte de foi. Celui à qui il donnera son nom, qui sauvera son peuple de ses péchés, n'est peut-être pas celui dont il aurait pu espérer, comme ses contemporains, qu'il contribuerait à la restauration du règne davidique, qui contribuerait aussi à l'indépendance d'Israël, peut-être même au bien-être naturel de son peuple. C'est ce qui fait dire au pape, cette promesse, au fond, elle est à la fois trop et trop peu. Et Joseph va devoir accueillir dans son chemin de foi. À propos de l'invitation de l'ange à fuir en Égypte, là je cite Saint Jean Chrysostome. Bon. Cette histoire n'est pas... Alors c'est Saint Jean Chrysostome qui prête à Joseph ses réflexions. Voilà, il dit. Cette histoire n'est pas claire, elle est au moins ambiguë. Peu de temps auparavant, c'est Saint Jean Chrysostome qui évoque Joseph s'adressant à l'ange. Tu me disais qu'il allait sauver son peuple, et maintenant il ne peut même pas se libérer du péril. Il nous faut prendre la fuite, entreprendre une longue marche, s'exiler en terre étrangère. C'est contraire à la promesse que tu m'avais faite. Saint Jean Chrysostome, qui dit, mais oui, Joseph va devoir vivre ce chemin. Parfois, on spiritualise, on idéalise, on considère que c'est un midrash, parfois. Autrement dit, ça n'a pas de fondement historique. Moi, je ne le pense pas. Je pense que Joseph va vivre dans son chemin de foi ses déplacements. Voilà. Donner à Jésus son nom, mais en accueillant le fait qu'il ne sera peut-être pas le sauveur tel que lui aurait pu le penser, comme ses contemporains. Lorsqu'il s'agira de la fuite à l'Égypte, ben oui, interviendra la question, mais comment ? Tu m'avais dit qu'il sauverait son peuple, et voilà que lui, il doit partir. Pourquoi une telle haine? Pourquoi une telle violence contre cet enfant? De même, Saint Jean Chrysostome dit, alors s'interroge à propos du massacre des enfants innocents. Joseph et Marie eurent-ils connaissance de cette tragédie? Ils apprirent tôt ou tard, mais nous ne savons pas à quel moment. Ce fut une épreuve. Souffrir soi-même est déjà trop lourd. surtout dans certaines épreuves. Mais quand on se sait, sinon la cause, du moins l'occasion de la souffrance d'autrui, cela devient intolérable. Nous nous spiritualisons beaucoup, essayons, bon, moi j'essaie de faire cette lecture un peu spirituelle, de me mettre à la place de Joseph et de Marie, voilà, l'annonce d'un sauveur, très bien, auquel on donnera le nom de Jésus, qui sauvera son peuple de ses péchés, oui, peut-être, mais quand même, on attendait autre chose. Et puis ce sauveur, il n'est pas si sauveur que ça, puisque dès qu'il naît, ben, il faut partir, il faut fuir. Alors, bon, la fuite en Égypte, on a là aussi les évangiles apocryphes, vont beaucoup broder dessus, avec tous les miracles qui se passent, c'est un exil. Et le pape François, dans Patrice Corday, évoque les migrants, bien sûr, fait le lien avec tous les migrants, avec le fait que Jésus va vivre cela, et le massacre des saints innocents. Comment comprendre que la naissance de cet enfant soit source d'une telle violence? Entre parenthèses, vous savez cela, mais je préfère quand même le dire, l'évangile de Matthieu, dans ce qu'il nous dit de la violence meurtrière d'Hérode, correspond à ce qu'on sait aujourd'hui de la fin du règne d'Hérode. La fin du règne d'Hérode le Grand est marquée par quantité d'assassinats, de meurtres. Il y a une sorte de paranoïa, il voit des conspirateurs partout. Et vous savez peut-être que Hérode le Grand avait demandé à ce que, qui se savait très peu aimé, avait demandé à ce que l'on enferme un certain nombre de notables de Jérusalem, en demandant qu'on les tue le jour de sa mort, en disant « si au moins on ne pleure pas pour moi, au moins on pleurera à Jérusalem ». Donc le chemin de foi de Joseph, je crois qu'il faut l'entendre comme un certain nombre d'actions qu'il va devoir poser, et des actions qui s'inscrivent dans un contexte de déplacement constant. Il lui faudra constamment, voilà, accueillir le dessein de Dieu. C'est pour ça que j'avais écrit, voilà, qui montre comment, à chaque instant de la mission qu'il lui a fallu accomplir, Joseph, dans le silence de son cœur, a dû prononcer un fiat, comme Marie l'avait fait avant lui. Et il se risquera constamment sur le chemin où Dieu l'appelle, en faisant preuve d'une foi aimante et courageuse. Et courageuse. Il n'y a pas d'amour qui ne soit courageux, il n'y a pas d'amour qui ne prenne de risques. On l'a vu récemment, voilà. Une foi où il lui faudra aussi discerner, alors ça c'est peut-être un détail du récit, mais où il lui faudra discerner comment il peut réaliser du mieux possible sa vocation d'époux et de père. Et là, ce discernement, je le vois dans la dernière scène où il est donc, la Sainte Famille est en Égypte, l'ange apparaît, demande à Joseph, je cite, de se lever, de prendre avec lui l'enfant et sa mère, de retourner en terre d'Israël, car ils sont morts, ce qui en voulait à la vie de l'enfant. Et Joseph va retourner en Judée. Mais le discernement, il est quand il apprend qu'Archélaüs. On sait que le fils d'Hérode le Grand était tout aussi violent, sinon plus violent que son père. Ça, c'est historique. On peut tout à fait donner une dimension historique à ces récits. Et là, il a peur de s'y rendre. Voilà. C'est la foi qui discerne ce qu'il y a de mieux. Voilà. La foi qui accueille, la foi courageuse. Et c'est la foi qui va aussi discerner qu'est-ce qui est le mieux pour l'enfant et sa mère. Donc il a peur de s'y rendre parce qu'il apprend que Archélaüs, et c'est là que l'ange va intervenir pour lui dire, eh bien, écoute, voilà, tu prends l'enfant et puis ils vont se rendre en Galilée. Donc ça pourrait être un détail, mais je crois que c'est aussi le signe d'un discernement que Joseph opère afin de remplir du mieux possible sa vocation d'époux et de père. La foi qui discerne, foi courageuse, foi aimante, foi où il faudra pour Joseph accepter de se laisser déstabiliser par rapport à ce qu'il pensait du salut, de la venue d'un sauveur, foi de Joseph qui sera aux prises avec, on l'a vu, je viens de le dire, avec peut-être les questions devant cet enfant qui suscite autant de violence, qui suscite autant de haine. Pourquoi? Pourquoi? Et en même temps, voilà, une foi qui permette au dessein de Dieu de se réaliser. Voilà, c'est en cela que Joseph, me semble-t-il, est aussi un modèle dans sa manière de prendre en charge, de prendre ses responsabilités vis-à-vis de Marie, de Jésus, et de discerner ce qui est le mieux pour eux, de discerner ce qui est le plus en accord avec le dessein de Dieu. Et j'en arrive à mon quatrième point, ce propos, un modèle de chasteté. On a parfois sous-estimé peut-être cette dimension. On l'a peut-être réduite. Voilà, je crois que Joseph est vraiment époux et père. Il l'est vraiment. Même si souvent on considère qu'il n'était que le père adoptif. Et soi-disant, s'il n'est que le père adoptif, alors il n'est pas vraiment le père. Et il ne peut pas être véritablement l'époux de Marie, puisque Marie s'est pleinement consacrée à Dieu. Jean-Paul II, sur ce point-là, a des passages que je vous invite à lire. C'est dans son exhortation apostolique « Redemptoris Custos ». Je vais vous lire ce passage. En s'adressant à Joseph par les paroles de l'ange, Dieu s'adresse à lui comme à l'époux de la Vierge Marie. Ce qui s'est accompli en elle par le fait de l'Esprit Saint exprime en même temps une particulière confirmation du lien sponsal qui existait déjà entre Joseph et Marie. Confirmation. Dans les paroles de l'Annonciation nocturne, non seulement Joseph entend la vérité divine sur la vocation ineffable de son épouse, mais il y réentend aussi la vérité sur sa propre vocation d'époux. Il est époux. Pas au second degré, il est époux. Cet homme juste, note le Saint Jean-Paul II, qui dans l'esprit des plus nobles traditions du peuple élu, aimait la Vierge de Nazareth et s'était lié à elle d'un amour sponsal, est à nouveau appelé par Dieu à cet amour. Différemment, mais il est appelé à cet amour. Et à propos de l'expression « Joseph prit chez lui son épouse, mais il ne la connut pas jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils », voilà ce qu'écrit Saint Jean-Paul II, ces paroles indiquent une autre proximité sponsale. La profondeur de cette intimité, l'intensité spirituelle de l'union et du contact entre personnes, de l'homme et de la femme, proviennent en définitive de l'esprit qui vivifie. Joseph, obéissant à l'Esprit, retrouva précisément en lui la source de l'amour, de son amour sponsal d'homme. Et cet amour fut plus grand que ce que l'homme juste pouvait attendre selon la mesure de son cœur humain. Autrement dit, en accueillant non seulement le message de l'ange, mais en accueillant la réalité de Marie, Joseph va grandir dans sa dimension d'époux. Je crois que cela peut concerner certaines d'entre nous, d'épouse, pas d'époux, d'épouse. Cela, vous comprenez en quoi cela peut nous rejoindre. Voilà, je relis. Joseph, obéissant à l'Esprit, retrouva précisément en lui la source de l'amour, de son amour sponsal d'homme, et cet amour fut plus grand que ce que l'homme juste pouvait attendre selon la mesure de son cœur humain. Il est époux, il est au sens fort, et il l'est peut-être davantage encore qu'il ne l'aurait été, si je puis dire, ou autrement, selon la mesure de son cœur humain. À propos de la relation filiale, le même Jean-Paul II, toujours dans Redemptoris Custos, a cette réflexion que je vous lis. Puisque l'amour paternel de Joseph ne pouvait pas ne pas influer sur l'amour filial de Jésus, et que l'amour filial de Jésus ne pouvait pas ne pas influer sur l'amour paternel de Jésus, comment arriver à reconnaître en profondeur cette relation tout à fait singulière? Il est Père. Et Jésus est fils. Il est père, puisque l'amour paternel ne pouvait pas ne pas influer sur l'amour filial de Jésus, et que l'amour filial de Jésus ne pouvait pas ne pas influer sur l'amour. Comment arriver à reconnaître en profondeur cette relation? Autrement dit, en acceptant d'être le père d'un enfant qui n'est pas charnellement le sien, l'époux d'une femme, qu'il sait être d'abord la servante du Seigneur, Joseph a reçu la grâce d'un amour plus grand que celui qu'il éprouvait auparavant, ainsi que la grâce d'une réelle paternité de cœur et d'esprit. Il sera donc le père de Jésus, qui n'allait pas moins fils de Dieu, de par Dieu qui lui a fait le don magnifique d'un cœur de père. Comme si l'Esprit Saint, en donnant à Marie un cœur de mère, avait également formé en Joseph un cœur de père et d'époux. Aussi saint Augustin dit ceci: ils méritent tous les deux d'être appelés les parents du Christ. Non seulement elle d'être appelée sa mère, mais lui aussi d'être appelé son père, de même qu'époux de sa mère, car il était l'un et l'autre par l'esprit et non par la chair. Et c'est là que je voudrais évoquer la chasteté de Joseph. Parce qu'on va dire de Joseph qu'il est le très chaste époux. Avec peut-être une connotation un peu, pas négative, mais je dirais, on va limiter cette dimension-là. La chasteté n'est pas simplement de l'ordre de l'affectif. La chasteté, c'est une manière d'être. C'est une attitude globale faite de non-possession, faite d'amour désintéressé et total, faite de décentrement. La chasteté répond d'une certaine manière à la logique de l'amour, qui est toujours une logique de liberté. Et Joseph est un modèle en ce sens-là, en ce sens qu'il ne retiendra pas pour lui, ni Marie, ni Jésus, mais qu'il fera de sa vie une vie qui est totalement à leur service. Paul VI dit ceci à propos de Joseph: sa paternité s'est exprimée dans le fait d'avoir fait de sa vie un service, un sacrifice au mystère de l'incarnation et à la mission rédemptrice qui est jointe. D'avoir usé de l'autorité légale qui lui revenait sur la Sainte Famille pour lui faire un don total de soi, de sa vie, de son travail. Et il ajoute d'avoir converti sa vocation humaine à l'amour domestique dans la surhumaine oblation de soi. La surhumaine oblation de soi, de son cœur, de toute sa capacité d'amour mise au service du Messie qui naquit dans sa maison. Joseph est là un modèle pour nous, qui d'une certaine manière son père, qui pour certaines d'entre vous sont épouses, Voilà, époux, bien sûr, aussi pour les diacres, que j'allais oublier. Modèle de ce don total de soi, de cette mise au service totale, voilà, oblation de soi, de son cœur, de toute sa capacité d'amour. La mission de Joseph auprès de Marie, de Jésus et de Marie, cela c'est toujours Paul VI. Bon, si vous voulez, je pourrais vous donner le texte parce que c'est l'Angélus du 19 mars, ce n'est pas d'aujourd'hui, 1970. Il dit ceci: la mission de Joseph auprès de Jésus et de Marie fut une mission de protection, de défense, de sauvegarde, de subsistance. Nous invoquerons donc le patronage de Saint Joseph pour l'Église souffrante, menacée, soupçonnée, rejetée. Mais il ne nous suffit pas d'invoquer, nous devons imiter. Notez bien la suite. C'est peut-être sur ce point-là que je voudrais conclure, que je vais conclure. Que le Christ ait voulu être protégé par un simple artisan, dans l'humble nid de la famille familiale, nous enseigne que chacun peut le protéger. Vous notez bien que le Christ ait voulu être protégé, nous enseigne que chacun peut le protéger. Et il ajoute, dans le royaume des murs domestiques et dans le monde du travail, protégez Jésus. La mission de Saint Joseph est la nôtre. Garder le Christ et le faire croître en nous et autour de nous. Parce qu'il ne retient rien pour lui, il n'a rien retenu, mais que dans cette attitude pleine de chasteté, c'est-à-dire vraiment d'oblation de soi. Il n'a pas d'autre souci que de protéger, de garder. La mission de Saint Joseph est la nôtre. Garder le Christ. Le faire croître en nous et autour de nous. Voilà, me semble-t-il, qui nous renvoie à notre vocation, baptisé, consacré, religieux, diacre, prêtre, évêque. Comment laissons-nous le Christ croître en nous? Voilà la question. Comment le protégeons-nous aussi aujourd'hui? La mission de Saint Joseph est la nôtre, garder le Christ. Garder, non pas dans le sens de la possession, on a bien compris. C'est le contraire. Voilà, Joseph va faire en sorte que ce fils, qui n'est pas le sien, mais qui l'accueille pleinement comme un père, voilà, soit offert au monde. Garder le Christ. Comment le protégeons-nous, lui qui se fait vulnérable entre nos mains? C'est quelque chose qui m'a... C'est nous qui donnons à voir Jésus. C'est nous qui le donnons à voir. C'est nous qui le donnons à voir. Il a besoin de nous. Comment le faisons-nous? Comment parlons-nous de lui? Comment le donnons-nous à voir pour que le monde le reconnaisse? Comment, à travers nos vies, nos ministères, nos pauvretés, nos faiblesses, comment sommes-nous signes de Jésus? Le faire croître en soi, le pape François dit dans, il cite Benoît XVI, qui dit dans une de ses lettres apostoliques, il dit que la mesure de la sainteté, voilà, est liée à la stature que le Christ atteint en nous. Ça, c'est Benoît XVI. La mesure de la sainteté est liée à la... Voilà. À la place, la stature que le Christ atteint en nous. Mais pour que le monde le connaisse, pour que le monde le reconnaisse, comment? Comment le protégeons-nous aussi face aux instrumentalisations de toutes sortes? Dérives idéologiques, dérives sectaires. Comment nos actions, nos pratiques pastorales, sont-elles habitées, incarnent-elles son enseignement, sa proximité avec les petits, les pauvres, sa vie donnée, sa résurrection, sa présence dans notre monde. Il prit l'enfant et sa mère, avec évidemment tout ce qu'on vient de voir, avec l'effacement que cela nécessite, avec les actes, l'acte de foi, les dépossessions. Comment laissons-nous Jésus, voilà, nous déposséder aussi de tout ce que parfois nous disons de lui? Parce qu'on parle, moi le premier. Comment nous laissons Jésus? Pour que ce soit vraiment lui qui ait la première place. Pour que ce soit sa parole, sa présence, sa force de résurrection. Avec les conversions personnelles, ecclésiales, avec les déplacements, avec les actes de foi que cela occasionne, le risque étant souvent d'enfermer Jésus dans ce que nous pensons de lui, dans ce qui nous rassure, ce qui nous conforte, dans ce qui s'est toujours fait, et de ne plus l'accueillir comme celui qui peut faire du neuf. Il peut faire du neuf. Lui, bien sûr, quand je dis Jésus, je pense à la Sainte Trinité, je pense à l'œuvre de l'Esprit-Saint. Voilà peut-être la question que je... modèle d'effacement, modèle de foi, modèle d'ajustement au dessein de Dieu, modèle de chasteté, mais avec, voilà... Comment le gardons-nous, voilà, le protégeons-nous, le défendons-nous d'une certaine manière, tout en nous défendant nous-mêmes de tout ce qui nous empêche de lui donner la première place, de nous laisser surprendre, de lui permettre de lui laisser faire du neuf. Le pape François reprend un petit peu cela. Il dit ceci... Nous devons toujours nous demander si nous défendons de toutes nos forces Jésus et Marie, qui sont mystérieusement confiés à notre responsabilité, à notre soin, à notre garde. Le Fils du Tout-Puissant vient dans le monde en assumant une condition de grande faiblesse. C'est le propre de l'incarnation. Nous devons toujours nous demander si nous défendons de toutes nos forces Jésus et Marie, mystérieusement confiés à notre responsabilité. Cet enfant, et celui-là vous allez reconnaître le pape François, mais il faut l'entendre, cet enfant est celui qui dira, dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ses plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Ainsi, chaque nécessiteux, chaque pauvre, chaque souffrant, chaque moribond, chaque étranger, chaque prisonnier, chaque malade est l'enfant que Joseph continue de défendre. C'est pourquoi Saint Joseph est invoqué comme protecteur des miséreux, des nécessiteux, des exilés, des affligés, des pauvres, des moribonds. Et c'est pourquoi l'Église ne peut pas ne pas aimer avant tout les derniers. Parce que Jésus a placé en eux une préférence. Il s'identifie à eux personnellement. Nous devons apprendre de Joseph le même soin, la même responsabilité. Aimer l'enfant et sa mère. Aimer les sacrements et la charité, aimer l'Église et les pauvres, chacune de ces réalités est toujours l'enfant et sa mère. Bien sûr, en pensant à cela, je ne vous cache pas que ces réflexions m'ont beaucoup troublé. Et elles m'ont beaucoup fait réfléchir. C'est vrai que je ne pouvais pas m'empêcher de penser... à tous les enfants, les jeunes, les femmes aussi, dont nous n'avons pas su être les gardiens dans l'Église, que nous avons blessés, profanés, avec le scandale que cela représente. Mais garder l'enfant et sa mère, C'est aussi cela. C'est aussi s'interroger sur, moi je dis, notre propre faiblesse, notre propre culpabilité. Peut-être une occasion d'implorer aussi aujourd'hui la miséricorde du Seigneur, bien évidemment, mais d'invoquer Saint Joseph, dont on dit qu'il est le gardien de l'Église, puisqu'il a été le gardien de... Il est le gardien de l'Église en tant qu'elle est le prolongement du Christ. Et de l'implorer peut-être avec la même foi qui animait, vous le savez, Sainte Thérèse d'Avila. Voilà, je terminerai sur ce passage. Sainte Thérèse d'Avila, donc réformatrice du Carmel, avait une grande foi en Saint Joseph. Peut-être nous faut-il retrouver cela pour notre Église diocésaine, à l'occasion de se dire, voilà, je vous disais au tout début comment j'avais été moi-même un peu déstabilisé par ce thème, et puis finalement, en creusant, en lisant, en priant, je me suis dit, mais oui, Joseph, il a une place, elle n'est pas secondaire, et il nous trace le chemin, voilà. Il prie l'enfant et sa mère. Voilà ce que écrit Sainte Thérèse d'Avila. Je le sais par expérience, Saint Joseph nous assiste en toutes nos nécessités. Notre Seigneur exauce au ciel toutes les prières de celui auquel il obéissait sur terre. Je ne l'ai pas dit, je l'avais noté. C'est étrange de voir dans l'évangile de Luc, on nous dira que Joseph, que Jésus était soumis à son père et sa mère. Tout fils de Dieu qu'il était. Donc, voilà. Notre Seigneur exauce au ciel toutes les prières du ciel auxquelles il obéissait. Je voudrais porter tout le monde à la dévotion envers ce saint, tant j'ai fait l'expérience de son crédit auprès de Dieu. Je n'ai vu personne lui être vraiment dévoué sans avancer dans la vertu, car il favorise singulièrement les progrès de ceux qui se confient à lui. C'est ce que nous pouvons nous souhaiter les uns les autres, nous confier à lui, pour progresser dans la vertu et surtout pour progresser dans, voilà, son image, dans cette mission, cette responsabilité qu'est la nôtre, de faire croître Jésus, de faire connaître Jésus, mais pour cela peut-être aussi le protéger, peut-être d'abord de nous-mêmes.